Mémoire vive,
présentée par Stéphane Bou
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ. Dans Mémoire du Yiddish, Transmettre une langue assassinée, livre dans lequel Rachel Hertel revient sur la passion qui a été toute sa vie la sienne d'enseigner le Yiddish, de traduire sa littérature, cette grande passeuse du Yiddish revient sur le titre qu'elle a donné à son essai sur la poésie d'après la destruction, donc la poésie Yiddish d'après la destruction, dans la langue de personne. Ce titre signifie pour moi la surdité du monde et l'éradication du Yiddish en seulement 5 ans, écrit-elle. Des langues disparaissent dans l'histoire ou se transforment, comme les langues de l'Antiquité, le grec ou le latin. Mais le Yiddish a été assassiné et ne peut se remettre de cet anéantissement. Une langue assassinée, bien autre chose qu'une langue morte. Le dernier film de Nourit Avid, Yiddish, qui vient de sortir en salle, résiste à ce que pourrait avoir de trop désespérant, le constat de Rachel Hertel. À travers les témoignages de 7 jeunes gens qui rendent compte de leur amour du Yiddish, de sa poésie, ils montrent l'effort de ceux qui entendent encore faire respirer et faire entendre cette langue. Alors bonjour Nourit Avid.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis absolument ravi. On se souvient d'un très grand nombre de vos films qui portent d'ailleurs sur le langage, sur la langue, sur la traduction aussi. Alors je cite traduire, je cite langue sacrée, langue profane, d'une langue à l'autre, parmi une filmographie beaucoup plus large, évidemment. Alors évidemment, on va parler de ce dernier film qui vient de sortir donc hier, qui va être promis à une longue carrière de projection et aussi de débat. On reviendra sur la manière avec laquelle le film va vivre. Mais je voudrais d'abord que vous commenciez presque par développer les quelques petites phrases qui sont au début de votre film, à savoir qu'est-ce qu'a représenté c'est-à-dire au début de votre film, il y a quelques phrases de vous et c'est le seul moment où vous intervenez, on pourrait dire, en première personne. Qu'est-ce qu'a représenté le Yiddish pour vous qui êtes né à Tel Aviv et dont les deux langues maternelles, pourrait-on dire, est l'allemand et l'hébreu? Est-ce que c'est une langue que vous compreniez, que vous comprenez, que vous pouvez lire? Enfin, quel est votre rapport, on pourrait dire, biographique, intime, personnel dans votre à cette langue, le Yiddish, auquel vous consacrez votre dernier film?
Elle était très mal vue des côtés d'allemand, elle était très très mal vue des côtés de l'hébreu. Pas pour les mêmes raisons. Mmh. Et des côtés de l'allemand, c'était pas une langue, c'était une sorte de jargon. Et d'ailleurs, elle s'appelait jargon, mais pas seulement les juifs allemands. Mmh. Les yiddishisants eux-mêmes l'ont appelé jargon. Et c'était pour eux pas une vraie langue. Et le monde qu'elle représentait, les juifs allemands étaient un peu hautains. Et par rapport à ça, eux qui étaient dans la culture, etc.
Vos parents allemands, mais parlaient le yiddish quand même?
Pas du tout, mais pas justement, du tout. Mes parents, ma mère tchèque, mon père allemand. Mais la langue de maison était l'allemand. Pour ce qui concerne l'hébreu, c'était vraiment, il ne fallait pas parler une autre langue que l'hébreu. Et le yiddish, c'était la pire de toutes. Pas à nos yeux, nous on ne connaissait rien, mais c'est ça que nos profs nous ont un peu dit. Que c'est la langue galoutie, la langue de l'exil, la langue de la mort. Et elle était pas mal méprisée. Ceci dit, bien qu'il fallait parler qu'une langue, heureusement que les gens n'écoutent pas ce qu'on leur dit, et on l'attendait quand même souvent dans la rue. Hein, c'est-à-dire que c'était une langue que les gens parlaient, et que moi j'avais l'impression, moi je pensais que je la comprenais. En fait, je la comprenais. Mais pas à un niveau de ce qu'après, quand j'apprends les yiddish écrits, la poésie, ça c'est autre chose.
Vous la compreniez, est-ce qu'elle vous faisait peur? Je vous pose la question parce qu'à un moment donné, Dori Manor, qui est un des personnages de votre film, qui est israélien, qui est né dans l'hébreu, qui vit à Tel Aviv, dit « Quand j'étais enfant, le yiddish me faisait peur, ça représentait tout ce qui est mauvais. » En fait, il renvoie à peu près à votre expérience. Mm-hmm. Il dit « C'était l'ennemi juré des juifs. » Et c'est intéressant parce que et c'est vraiment la citation littérale. Et c'est intéressant parce qu'il y a un autre témoignage qui parle effectivement du rapport, non plus effectivement à l'hébreu, mais à l'allemand, où le personnage dont le nom m'échappe à l'instant même parle de Moses Mendelssohn et dit que...
Révérend.
Voilà, c'est ça. Et dit que pour Mendelssohn, le yiddish, c'était l'ennemi de l'intégration à l'Allemagne. Donc il y avait l'ennemi des juifs vu du côté hébreu et l'ennemi de l'assimilation vu du côté des juifs allemands.
Donc. C'est ça. Mais c'est pour ça que je dis que mes parents qui représentaient justement ces côtés-là, c'était leur mépris vers le yiddish, oui.
Comment vous sortez de ce mépris? Au point de vouloir aujourd'hui faire ce film qui est une déclaration d'amour.
J'ai grandi ici en France, hein, c'est pas la même chose. Et c'est pas du tout l'idéologie contre une langue ou une autre. Au contraire, pour moi, c'est pas une langue. Pour moi, il y a les langues. Et je crois pas que l'yiddish m'a fait peur, parce que je crois qu'il y a ce côté agréable de comprendre, parce que je comprenais au moins ce qui s'est raconté dans la rue. Et non, c'est au contraire, c'est la langue juive par excellence. C'est pas la seule. Il y a les langues juives qui m'intéressent toutes, hein, parce que les judéo espagnols, les judéo arabes, les judéo persans, etc. Hein. Et oui, c'est mais ce qui est intéressant, mes films précédents parlent déjà du yiddish d'une manière ou d'une autre. Et il y a même Niborski qui parle d'en traduire, et il parle en yiddish. Mais j'ai jamais pensé que je vais faire un film sur le yiddish.
Alors justement,
parce
pourquoi
que j'étais, comment, parce que je n'étais pas quelqu'un qui vient, parce que d'habitude, les gens qui font un film sur le yiddish, c'est des gens qui ont des parents, des grands-parents, derrière, c'est-à-dire il y a comme une sorte de nostalgie familiale. Et ça, c'était vraiment pas... Je crois... Bon, c'est un peu un détour, mais c'est via le film précédent qui s'appelle Signé, qui est sur les langues des signes, dont on a dit aussi qu'il y a pas, que c'est pas des vraies langues et qu'il y a pas de grammaire. Bon, et là je me suis dit il y a une autre qui on a dit exactement la même chose. Et là via la poésie, comment une non langue peut écrire une poésie tellement extraordinaire. Et justement, je choisis pas n'importe, c'est la choisie d'entre les deux guerres, c'est-à-dire que c'est pas les dish d'après. Ou la... c'est l'idée juste avant, juste avant.
Oui, on reviendra sur ce choix-là. Mais vous l'avez dit, hein, parler de la poésie. Alors en effet, votre film, c'est une succession de portraits. Je voudrais qu'on y revienne un tout petit peu après. Mais est-ce que votre idée d'emblée, c'est de mettre la poésie yiddish moderne, moderniste,
oui,
donc celle de l'entre-deux-guerres,
qu'on connaît pas,
qu'on connaît mal, au centre du film? C'est ça l'idée de départ.
Oui. Tous les poèmes qui sont dans le film étaient traduits, parce qu'il n'y avait pas de traduction.
À l'occasion, si... pour le film, vous voulez
pour
dire.
Pour le film, par Arnaud Bicard et Batia Abom. Et c'est-à-dire que la plupart n'existaient pas. Je dis peut-être existait un ou deux, mais la plupart n'existaient pas. Et c'est vraiment sortir cette poésie extraordinaire, moderniste, et de l'oubli. Et c'est que c'est... Oui, c'est... J'avais la chance de pouvoir le faire. Et déjà faire un film avec 7 poèmes. Et bon, il y a un qui c'est la traduction de la Bible de Kohelet.
L'Ecclésiaste au début du film.
Oui, c'est ça. Mais c'est... Bon, je crois que j'ai eu vraiment la chance de pouvoir faire. Et je ne parle pas que des yiddish. Est-ce que vous connaissez un autre film où il y a 7 poèmes lus par des jeunes gens et qui sortent au cinéma? Je veux dire, c'est déjà assez formidable.
C'est ce qu'on... Alors, évidemment, c'est, ce film, c'est une histoire de rencontre. Le film est structuré très simplement. C'est une succession de 7 portraits, 7 témoignages.
Les rencontres? Et mais je veux dire, c'est doublement les rencontres. Hein.
Alors justement, j'allais vous poser la question.
C'est la rencontre de ces jeunes gens avec les poètes.
Exactement.
Et c'est ma rencontre avec eux.
Avec eux, oui. Alors comment justement vous avez fait ces rencontres?
C'est-à-dire, c'est déjà extraordinaire que ces jeunes gens rencontrent ces poètes et leurs poèmes, et des jeunes gens qui étaient... C'est-à-dire, les poètes avaient à peu près l'âge de...
Mais raconte la rencontre avec le poète, c'est vrai.
Le plus important, j'ai trouvé des gens qui ont fait cette rencontre-là.
Bien sûr, mais
et moi, je les rencontre.
Je comprends, c'est sûr. Mais la première partie de chaque témoignage, c'est d'abord la rencontre avant que ce soit avec un poète, avec la langue.
Oui, avec la langue.
Il faut noter que ce sont. Parce que vous auriez pu aller voir des gens pour qui le yiddish était. Il y en a encore. Qui c'était la langue maternelle, qui l'ont maternelle, enfin, dans certains milieux.
C'est pas ces
gens-là. C'est des gens qui, pour certains, avaient évidemment des parents ou des grands-parents qui pouvaient le parler.
Il n'y en a qu'un.
D'accord.
Et qui a une grand-mère qui parle de ça.
D'accord.
Au moins.
Donc c'est des
Qui a une grande-mère qui parlait le yiddish. Et lui, il n'a pas entendu. Ah, parce que son père n'a pas parlé avec sa grand-mère en yiddish. Donc c'est pas une langue qu'il avait là à l'oreille. Pas du tout. Il dit bien, et ça c'est formidable, il avait l'accent. Mais il n'y avait pas la langue, il n'a jamais entendu ça. Son père parlait avec sa grand-mère en yiddish, donc c'est pas... Et les autres n'avaient rien du tout.
Mais donc c'est des personnages qui racontent, qui nous racontent comment ils sont tombés amoureux de cette langue,
oui, c'est ça.
Comment ils ont voulu l'apprendre, et que une fois apprise, ils ont découvert cette poète, tel autre, un autre poète, etc. Mais avant tout, il y a la rencontre avec une langue.
Je ne sais pas si c'est avant tout ou si ça va ensemble, hein, parce que je crois qu'il y a, et par exemple, Dor Imanor, il est poète lui-même. Mmh. Et Carolina Shimani, elle raconte qu'elle cherchait quelque chose qui est autre chose que l'histoire d'un peuple assassiné. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il y a là, et c'est justement quand elle a découvert Dora Fogel. Et c'est là où ça fait tilt. Hein. Mmh. Donc je crois que pour eux, on ne peut pas différencier. C'est pas d'abord. C'est pas, ça va l'un dans l'autre.
Ouais.
Et que je cherchais justement des gens pour qui la poésie est importante. Évidemment, ils découvrent cette poésie-là. Mais ce n'est pas des gens qui, parlaient yiddish pour parler yiddish. Hein. Et ça, c'est important.
Ces personnages sont de toutes les nations, enfin, pas de toutes, mais de beaucoup de nationalités européennes. Vous en rencontrez à Paris, à Berlin, à Vilnius.
Oui. Mais qui ne sont pas forcément juifs.
Beaucoup sont passés par... Alors, on y reviendra après, parce que c'est une question importante que ces personnages. Il me semble qu'il y a effectivement une question concernant les personnages, notamment qui à l'Est veulent apprendre le yiddish et ils ne sont pas juifs. C'est un petit.
Oui, mais c'est pas qu'à l'Est.
Mais à l'Est, c'est intéressant parce que le personnage polonais, lituanien, enfin, on sent qu'il y a le désir de rattraper au sein de la culture la trace des exterminés, de ceux qui ont disparu, des absents, et de faire revenir à l'intérieur de leur culture. Je crois que, d'ailleurs, je ne sais plus qui, je crois que c'est Carolina Szymaniak, qui est cette traductrice polonaise, qui le dit littéralement. Il s'agit de faire réintroduire l'héritage du yiddish dans la culture polonaise. Mais on pourrait dire que c'est le même cas pour le personnage qui habite à Vilnius, ou même traductrice russe, non?
Oui, mais c'est justement, c'est que ça vibre sous les pavés, mais on le découvre, c'est surtout pour Migle, hein, c'est-à-dire qu'elle dit qu'elle regarde maintenant Vilnius autrement quand elle se balade entre les boutiques et qu'elle sait qu'il y a ce monde-là. Ça, elle est dit, mais elle le découvre, c'est pas par là qu'elle est arrivée, c'est vraiment presque par hasard, là, elle a fait l'hébreu comme elle a fait le chinois. Elle a fait des études de linguistique. Et sa prof, qui travaille dans la Bibliothèque nationale, lui a demandé de venir l'aider. Et elle ne savait même pas qu'il y allait yiddish, à mon avis. Et en effet, c'est aussi quelqu'un d'extraordinaire, parce que je comprends bien la prof qui l'a découvert. Parce que moi aussi, quand je l'ai vue, on a fait un cours de yiddish ensemble. On était à la même année, c'est une fille extraordinaire qui dessine, qui est drôle, qui fait des caricatures. Et l'autre jour, j'ai vu, il y avait dans le New Yorker, il y avait un grand entretien avec elle dans le New Yorker, avec ses caricatures et tout. Et ça, c'était après moi. C'est-à-dire que, voilà, il y a comme ça des personnes où... L'intuition, il faut se fier à l'intuition qui dit que c'est des gens formidables. Et Carolina, évidemment, mais Carolina, c'était plus précis. Hein.
Carolina Szymaniak, qui est là, qui vit en Pologne.
Elle est enseignante.
Traductrice, qui a voulu réimprimer le premier livre à la fois en yiddish et en polonais dans les années 80.
Ils l'ont fait. Mais bon, il y a quelques années quand même. Mais c'est vraiment découvrir quelque chose, qu'est-ce que c'était. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'est-ce qu'on nous a caché. Hein, parce qu'elle est un peu plus âgée que Migle, hein, et que c'est toute une génération qui voulait savoir qu'est-ce qu'on nous a caché. Donc tout de suite, quand le mur est tombé, ils sont allés chercher de côté de la culture juive, la littérature juive, et après, elle s'intéressait à l'avant-garde, et aussi à l'avant-garde donc via Bruno Schulz, qui était à un moment donné le fiancé de Bora Fogel, et il découvre Bora Fogel, qui est vraiment une poétesse étonnante, mais vraiment étonnante.
Alors, vous dites dans une interview à propos du film que c'est pas du tout la nostalgie qui les anime. Ouais. Vous dites que ces jeunes
gens... Ni eux, et ni les poètes dont ils parlent.
En effet, et à propos de ces poètes dont
il parle, vous dites que
pour vous, il y a une énergie, une révolte dans cette poésie de l'entre-deux-guerres dont vous dites que, en fait, dont on comprend que pour vous, enfin, ça résonne avec ces jeunes gens aujourd'hui.
Oui, alors, c'est ça.
La question aussi. Alors,
ils disent, aucun de poètes dit qu'il est juif, par exemple. Je dis pas, c'est bien, on peut les dire, mais c'est extraordinaire d'écrire une poésie très personnelle et très percutante, hein, et c'est beaucoup d'autoportraits et à aucun moment. On sait que celui qui fait l'autoportrait, il est juif, sauf par le fait qu'il écrit dans une langue juive. C'est formidable, non? Je ne sais pas.
Oui. Non, moi,
parce que c'est contradictoire, quelque chose, il y a un mouvement.
La question que je me suis posée en le voyant, en fait, il y a deux questions que je me suis posées en comprenant bien vraiment votre projet et en adhérant totalement à votre projet. C'est malgré tout, malgré ce désir-là, qui est ceux de ces personnages, qui est le vôtre, d'essayer de redonner le maximum, on pourrait dire, de présence vitale à la langue. Est-ce qu'on peut, malgré tout, ne pas entendre la perte? Est-ce qu'on peut ne pas...
C'est sur la perte.
Alors, c'est ce que...
Non, mais c'est en devenir, parce que ces gens-là, on sait, c'est juste avant la guerre, et on dit, waouh, tout ce que ça aurait pu être. C'est-à-dire, c'est le moment où c'était en devenir, où tous ces gens pensaient qu'ils vont changer le monde avec des mouvements politiques, avec des mouvements artistiques, avec des mouvements poétiques. Et c'est cette énergie. Et là, cette énergie-là, elle était anéantie.
Elle a été anéantie sous cette forme-là, mais il faut... Mais je citais Rachel Hertel, elle nous a bien appris en traduisant tellement de très grands poètes d'après la destruction, d'après leur urbaine, à quel point la poésie yiddish a, à ce moment-là, dans les années d'après-guerre et pendant de nombreuses années, une vitalité, une puissance créatrice absolument phénoménale, une énergie, elle emploie ce mot aussi, paradoxal évidemment, complexe, mais qui renouvelle complètement l'histoire de la poésie yiddish, c'est pour ça. Alors la deuxième question que je voulais vous poser, c'est pourquoi finalement, alors vous citez Zutz Wecker, mais qui est un poème d'avant...
Oui, mais j'ai... Il est cité avec un poème juste avant.
Oui,
juste
avant. C'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire, mais donc, alors qu'il est bon, mais pourquoi, enfin, expliquez-moi mieux le choix délibéré de mettre hors champ, on pourrait dire, cette poésie d'après la destruction et cette deuxième grande révolution moderne de la poésie après la destruction.
J'ai pas mis en dehors. J'ai choisi ce moment d'avant-garde parce que ça m'intéresse. Moi, le mouvement Dada m'intéresse. Je veux dire, c'est le mouvement, c'est-à-dire que il y a quelque chose qu'on veut changer le monde. On y croit, on n'y croit pas, parce qu'il y a quand même Marquiche, c'est pas à cette époque-là quand il écrit, hein. Après, on sait qu'il était quand même assassiné par Staline, hein, et dans 52, hein, et 12 août, je crois, 52. Mais c'est que ça m'intéresse, les mouvements, pour moi, les mouvements modernistes. Mais ça, c'est parce que c'est ça qui m'intéresse en général. Donc, j'arrive, les années 20, j'arrive à très bien, j'ai dit, waouh, il y a toute cette poésie de ce moment-là. Et puis, il y a aussi des poètes. Hein. Je veux dire, il y a des poètes femmes, des poétesses. Il y a quand même dans le film trois poétesses.
Deborah Vogel, Anna Margolin.
Et Tzelia Dropkin.
Voilà.
Quand même, c'est pas...
Je connaissais pas.
Que c'est pas évident. C'est pas évident. Et Vogel, elle est... Non, mais je veux dire, tout, ils sont tous formidables. Je parle, on a choisi... Les poètes, on a choisi les poèmes. Hein.
Vous diriez, comme c'est une formule de Rachel Hertel, je l'ai citée, je voudrais vous... Elle a cette phrase, elle dit « Aujourd'hui, le yiddish s'est substitué à l'hébreu dans l'ordre du sacré ». Vous diriez quelque chose de cet ordre?
Je comprends qu'elle dit ça. Je comprends qu'elle dit ça. Moi, le sacré, j'ai des problèmes avec le sacré. Non, mais je veux dire... Mais je comprends très bien ce qu'elle dit, c'est évident. Hein. C'est-à-dire que... comme ils sont tous morts, hein. Et comme la langue a été... J'ai du mal aussi à parler d'une langue assassinée, parce que c'est les gens c'est le locuteur qui est assassiné. Et avec eux, leur langue, mais la langue, en tant que telle, elle n'est pas assassinée, la preuve. Non, mais je veux dire qu'elle peut... Oui, bon, et là, je vais pas, mais c'est pas. Oui, c'est, je comprends très bien pour elle et je suis d'accord que ça garde ça pour elle parce que c'est. Bon, on dit que Kudoshim, de tous les sacrés, les gens qui étaient morts. Là. Mais j'aime. Bon, je ne sais pas si c'est. Si c'est autour de sacré que.
Non, non, ça m'intéressait d'avoir votre réaction.
Oui, c'est pas autour de sacré. Justement, Jacob, dans ces années-là, qui a à peu près rien à sacré. C'est des contes de la sacrée n'est pas.
Et les poèmes que qui sont souvent cités dans le film sont des poètes qui sont des grands blasphémateurs.
Bah oui, Marc Jean Ier. Seulement, ouais. Il y a quelque chose justement qui va contre le shtetl, qui va contre la religion, mais en même temps, justement, en utilisant, parce que Marquiche, qui vraiment, il est blasphématoire, mais il a une langue extraordinaire dans laquelle il connaît très, très bien la langue sacrée. Il connaît, il a eu une éducation. C'est-à-dire que c'est pas des gens, bon, surtout côté, oui, lui, spécialement.
On va malheureusement devoir se quitter. Je voudrais que vous... Le film vient de sortir, mais c'est pas une sortie classique, hein, puisque vous n'abandonnez pas votre film à la porte des salles, puisque vous allez organiser beaucoup de rencontres, beaucoup de débats, enfin, je sais pas s'il faut appeler ça des débats, mais en tout cas des rencontres. Votre film va susciter.
Tout autour de la rencontre.
Voilà, rencontre entre le film et son public, mais avec des tiers, des médiations, des discussions, etc. Alors, bah, par exemple, je sais qu'au 3 Luxembourg, rue Monsieur le Prince, à Paris, d'ailleurs, je vous demanderai s'il y aura des rencontres de cet ordre aussi en province, mais toutes les semaine. Non, je vois trois fois par semaine.
Le film sort normalement.
Je vous laisse le présenter. Voilà,
il sort normalement au cinéma. Ouais. Il y a quatre séances par jour.
Ouais.
Et puis, il y a trois fois par semaine un invité à moi et avec qui on discute le film après. Et je fais ça, il faut dire, c'est le sixième film que je fais au 3 Luxembourg avec débat, etc. Et c'est vraiment, pour moi, ça fait partie de l'ensemble. Hein. Je ne vois pas le film se promener sans. Et parce que je trouve qu'à partir de là, il y a comme un autre monde qui se crée. Hein. Ce n'est pas juste on voit le film parce que...
Donc il y aura une vingtaine de rencontres.
Ouais.
Et moi, j'invite vraiment les auditeurs qui voudront aller voir le film d'aller sur le site de la Fondation pour la mémoire de Charon, où on renverra à votre site qui donnera toutes les dates et les noms des rencontres. Voilà.
Merci beaucoup.
Bonjour, merci beaucoup Norit Aviv. Donc je rappelle que ce film Yiddish qui vient de sortir avec l'aide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah, vient de sortir. C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter, radio-rcj.info et mémoirevive au pluriel.net ainsi que sur l'application RCJ.